Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous et merci d'être encore au rendez-vous de cette émission. Si vous écoutez régulièrement Métropolez-vous, vous aurez peut-être noté lors de certains numéros où il était question d'aménagement que les métropoles toulousaines possèdent des territoires ruraux et même des espaces agricoles. Il y a donc une agriculture et des agriculteurs métropolitains. On les imagine bien sûr dans les communes les plus périphériques de Toulouse Métropole, là où l'espace urbain est le moins développé, là où prés et terres cultivables sont encore bien visibles. Et pourtant, il existe aussi dans l'espace urbain métropolitain une forme d'agriculture qui se développe et dont on entend parler de plus en plus. On emploie maintenant l'expression « agriculture urbaine », concept qui aurait peut-être prêté à sourire ou à plaisanter il y a encore quelques années. On aurait cependant tort d'en rire, tout ça est très sérieux et il faut vraiment s'y intéresser. C'est ce que nous allons faire au cours de cette émission consacrée à la question « L'agriculture urbaine, un concept d'avenir pour la métropole toulousaine ». Et il se trouve qu'un certain nombre d'associations et de collectifs de citoyens passionnés par le sujet et toutes ses implications, qu'elles soient alimentaires ou environnementales, œuvrent dans le domaine de l'agriculture urbaine. Nous avons donc convié deux d'entre eux pour en débattre à Métropolez-vous. Ils s'appellent Christian Ortega et Olivier Bory. L'un est membre de l'association Green My City, l'autre de l'association du réseau Agriville. Alors à part ceux de nos auditeurs qui s'intéressent de près à ce qu'on appelle l'agriculture urbaine, je pense que beaucoup d'entre eux ne connaissent pas ni Green My City, ni Agriville. Alors je vais vous demander pour commencer à l'un et à l'autre de présenter ces deux associations. On va commencer par vous, Christian Ortega, pour l'association Green My City. Vous êtes à la base, je crois, ingénieur océanographe et puis vous êtes impliqué dans cette association. Alors quels sont les buts, les raisons qui ont présidé à sa création ?
En fait, à partir de ma formation d'ingénieur océanographe, j'ai eu la chance de voir se développer tout le message sur le changement climatique. Et j'ai eu envie de passer de l'observation du changement climatique à l'action. Et c'est à partir de là qu'avec d'autres, et nous venons certains d'un mouvement Alternatiba, on a créé cette association dont le but est principalement de sensibiliser les citoyens, mais aussi les élus à la question du changement climatique et sensibiliser juste à l'oral, comme ça suffit pas. Il faut des actions concrètes. Et l'action concrète qu'on a choisie pour ça, c'est de développer le vert en ville et le vert agricole. Et sur une idée assez simple, on souhaite développer des oasis urbaines qui sont à la fois des îlots de verdure et de fraîcheur pour lutter contre les îlots de chaleur en ville, des espaces nourriciers et des lieux de partage et de convivialité. Donc c'est autour de ce concept-là qu'on a lancé l'association et qu'on a lancé aussi avec d'autres les 48 heures de l'agriculture urbaine.
Voilà, alors on développera tout à l'heure tout ce qui se cache derrière cette présentation. Vous, Olivier Bory, vous êtes enseignant-chercheur. Alors, le domaine dans lequel vous intervenez, je vais vous laisser le préciser vous-même.
Oui, alors donc, moi je suis enseignant-chercheur alors à l'École nationale supérieure de la formation et de l'enseignement agricole, enseignant-chercheur en aménagement de l'espace, donc membre, effectivement, de l'association Réseau Agriville, qui a été portée à la base par trois enseignants-chercheurs, deux enseignants-chercheuses avec moi, avec l'idée, puisqu'on est aussi très impliqué dans la formation et dans l'activité recherche autour la question de l'agriculture en ville, en fait, de monter en fait une plateforme de recherche, mais aussi pédagogique, de manière à pouvoir organiser en fait le transfert entre la connaissance qu'on produit en tant que chercheur, les questions que l'on se pose, mais aussi la formation. Et donc du coup, on invite dans cette association et autour de ce réseau tout un tas d'acteurs complètement pluriels, que ce soit des élus, que ce soit des étudiants, que ce soit des membres d'associations, etc., à venir et participer à la construction en fait, de cette connaissance et à venir amender par des documents, des interviews, de manière à pouvoir organiser les discussions, les échanges autour de quelque chose quand même qui nous intéresse particulièrement.
L'agriculture urbaine, donc beaucoup d'initiatives, on va en parler dans quelques instants avec vous deux. Et l'agriculture urbaine, en est-il question dans l'actualité métropolitaine? On va le savoir dans quelques instants grâce à Corinne Saint-Félix et son habituel flash d'information. Métropolez-vous, l'actu. « On n'arrête pas le progrès dans la métropole toulousaine. La société Noveltis propose d'établir un cadastre solaire sur certains quartiers de la ville de Toulouse.
Oui, une géolocalisation possible grâce à son application Mon Toit Solaire, une expérimentation menée dans le cadre de la Smart City, accessible à tous et qui vise à promouvoir l'énergie verte sur un quartier allant pour le moment de Saint-Cernin à la Côte Pavée.
Oui, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une application de cadastre solaire ?
Alors en fait, il s'agit d'un outil graphique d'information qui veut encourager les citoyens à investir dans l'installation de panneaux solaires sur leur toiture. Cette application gratuite, précisons-le, permet de s'informer sur le potentiel photovoltaïque de son logement et de rentrer en contact avec des installateurs certifiés. Mon Toit Solaire a été réalisé sur Toulouse en 2017 par Noveltis à partir de données fournies par la métropole de Toulouse. À noter que les données solaires utilisées proviennent du programme européen Copernicus Atmosphere Monitoring Service. Le service est en place jusqu'à la fin du mois d'avril 2018 pour sa première phase de test. Puis après un appel d'offres, le service de cadastre solaire pourra être étendu sur l'ensemble du territoire de la métropole.
Du nouveau aussi dans le domaine culturel, la diffusion de la culture dans la métropole portée par un accord, celui de Culturebus.
La ville d'Aucamville et Toulouse Métropole renouvellent leur collaboration pour permettre aux habitants de cette commune et des villes voisines partenaires, Fonds Beaux-Arts et Launaguet, d'aller assister à des spectacles du Théâtre du Capitole, une institution retenue par la commune d'Aucamville dans le cadre du dispositif Culturebus. Initié en janvier 2015, Culturebus organise des sorties culturelles dans les grandes salles toulousaines comme la Halle au Grain, TNT ou encore le Théâtre du Capitole, pour lesquelles le déplacement en bus est assuré gratuitement par les trois communes. Ce dispositif permet de sensibiliser tous les publics aux arts, notamment la musique, et pour les structures culturelles partenaires d'attirer aussi de nouveaux publics au-delà des habituels passionnés.
Et on termine ce flash avec une information qui va intéresser ceux qui ont la main verte. Les 48 heures de l'agriculture en ville reviennent pour une seconde édition à Toulouse.
C'est l'événement qui végétalise la ville au printemps lors d'un week-end convivial. Il aura lieu cette année le 21 et 22 avril. Ces 48 heures de l'agriculture urbaine incitent à passer à l'action et se conçoivent comme un déclencheur pour lancer la saison de jardinage en ville et porter les initiatives individuelles. De plus en plus, l'agriculture urbaine est un phénomène de société qui se démocratise. Objectif, soutenir activement les habitants pour végétaliser leur quartier et leur maison afin de dessiner les contours d'une ville plus verte, plus agréable, plus respectueuse et plus respectée. De nombreux événements sont organisés sur la métropole toulousaine. Vous pouvez les découvrir sur le site internet www.les48heures.fr-toulouse.
Alors, dernière information de ce bulletin, les 48 heures de l'agriculture urbaine à Toulouse, et parmi les organisateurs, il y a un collectif constitué entre autres de Green My City et d'Agriville. Christian Ortega, vous qui êtes à la base de cette manifestation avec votre association, qu'est-ce que c'est exactement les 48 heures de l'agriculture urbaine ?
Alors les 48 heures de l'agriculture urbaine, c'est d'abord un grand rendez-vous avec les citoyens, les citadins et la ville. Et l'objectif, c'est déjà de mettre en valeur les nombreuses associations et structures qui œuvrent dans ce domaine-là. Et donc, organiser cette rencontre entre ces structures et les citadins et montrer qu'elle est très vivante, très forte, et essayer ensuite de continuer des actions tout au long de l'année, puisque 48 heures, c'est bien, mais l'idée, c'est de continuer, et de tirer une sorte de fil vert tout au long de l'année et reproduire le rendez-vous, idéalement, l'an prochain, à la même date.
Alors, vous, Olivier Bory, vous êtes intervenu l'an dernier dans le cadre des 48 heures de l'agriculture urbaine pour une conférence que vous aviez intitulée « L'agriculture pour une autre manière de fabriquer la ville ». Alors, moi, je suis vraiment interpellé par ce terme de « fabriquer la ville ». C'est pas penser la ville, c'est pas vivre la ville, c'est vraiment fabriquer la ville. Qu'est-ce que ça veut dire, l'agriculture pour fabriquer la ville ?
Oui, dans ce terme-là, en fait, moi, je suis aménageur. Ce qui m'intéresse, c'est comment on va penser la production de la ville de demain et comment, du coup, on va la planifier, organiser un certain nombre d'actions qui vont permettre, effectivement, de la façonner, de la construire, de la dessiner autrement. Et je crois, en tout cas, que les agricultures urbaines, parce qu'on n'est pas sur une agriculture urbaine, mais des agricultures urbaines, c'est ce que j'ai dit, d'ailleurs, dans l'intervention que j'ai faite lors des 48 heures, il y a vraiment une classification avec une diversité de formes, donc il faut vraiment parler de pluralité d'agriculture, mais je crois qu'en tout cas, on a là des outils qui permettent de construire une autre ville, de rapprocher finalement la campagne de la ville, de préserver les espaces qui sont encore des espaces de campagne en ville. Et du coup, on a l'opportunité de pouvoir organiser une forme d'alliance, c'est-à-dire de co-construction entre espaces agricoles restants ou périphériques et espaces qui s'artificialisent nécessairement en plus sur l'agglomération toulousaine, qui connaît une pression démographique forte, donc il faut bien urbaniser. Mais comment effectivement ville et agriculture se réinventent ensemble et comment on construit finalement un processus dans lequel un processus gagnant-gagnant. Et c'est ça la fabrication. C'est la ville qui ne voit plus les espaces périphériques ou les espaces ouverts encore enclavés comme des espaces à lotir ou des espaces à artificialiser. On n'est pas là sur la question de la réserve foncière. Voilà, je crois que c'est changer de vision pour fabriquer différemment.
On va aller plus loin maintenant. L'agriculture urbaine, donc au cœur de l'actualité métropolitaine récente, grâce à ces 48 heures de l'agriculture urbaine, et donc au cœur de cette émission avec notre sujet du jour, notre focus de la semaine, l'agriculture urbaine, un concept d'avenir pour la métropole toulousaine.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Et on poursuit ce numéro avec nos invités Christian Ortega et Olivier Bory, membres de l'association Green My City et de l'association Agriville, qui vont donc pour le développement de l'agriculture urbaine dans la métropole toulousaine en ce qui vous concerne, mais aussi ailleurs pour Agriville, parce que c'est vraiment une association nationale. Avant de poursuivre notre échange, je voudrais quand même qu'on la précise, cette notion, ce concept d'agriculture urbaine. Qu'est-ce que ça recouvre? Est-ce qu'on parle vraiment que de l'espace urbain, mais aussi de l'espace périurbain? Olivier Bory.
Oui, alors il y a tout un tas de chercheurs qui ont passé du temps aussi à essayer de définir ce concept-là. Moi, je suis assez séduit par une chercheuse d'AgroParisTech, Christine Aubry, qui a tenté de développer ce concept-là et qui dit, et que je reprends du coup, mais qui dit que l'agriculture urbaine, elle correspond aux agricultures qui sont localisées en ville, et là on parle d'agriculture intra-urbaine parce que localisée en ville, mais elles correspondent aussi en fait aux agricultures qui sont localisées à la périphérie. Et du coup, elles sont périurbaines. La question de la géographie ne qualifie pas la question de l'urbain. C'est pas parce qu'elles sont à l'extérieur qu'elles sont pas urbaines. Elles sont urbaines à partir du moment où elles entretiennent des liens fonctionnels avec la ville. C'est-à-dire que, y compris des agricultures périurbaines, à partir du moment où le marché est urbain, alors là, elles sont urbaines. Pardon.
Est-ce que ça veut dire, donc, si j'essaye un peu de synthétiser la chose, qu'on peut parler d'agriculture urbaine à partir du moment où la production est destinée à la ville la plus proche?
C'est exactement ça.
Alors, Christian Ortega.
Donc, la production et la consommation, ça c'est clair. Ce qu'il faudrait peut-être rajouter par rapport à ça, bon, on parle d'extraits de campagne qui pénètrent la ville et qui réactivent l'utopie de la ville fertile. On invente un nouvel urbanisme, on fabrique la ville, comme dit Olivier. Il faut aussi souligner le fait que c'est aussi un formidable mouvement d'innovation sociale et de réappropriation de l'espace urbain par les citoyens. Donc ça, c'est une composante très très importante. Le mieux vivre ensemble est quelque chose de fondamental dans ce mouvement.
Et cet aspect social et même sociologique, il faut vraiment en parler.
Absolument, puisqu'à l'origine de l'agriculture urbaine, nous avions les jardins familiaux, les jardins partagés. Et là, c'est bien clair, c'est se retrouver ensemble pour cultiver, pour partager et pour prendre du plaisir. Vous avez dit tout à l'heure que c'est un sujet très sérieux. Nous pensons que c'est un sujet très sérieux, en même temps très joyeux. C'est-à-dire que c'est un sujet, un endroit de convivialité. C'est
avec un endroit de vie, tout simplement.
Voilà, et c'est dans ce plaisir qu'on construit de nouvelles villes différemment. Et on a le sentiment, effectivement, qu'en retournant au sol, on est moins hors sol. Le citadin, malheureusement, assez souvent est un peu hors sol. Et remettre les mains dans la terre, c'est une manière de reprendre conscience de tout un certain nombre de réalités dont on reparlera, hein, sur la consommation d'eau, sur les économies, sur la manière de se nourrir.
Oui, il y a les aspects environnementaux aussi. On parle des aspects sociaux, mais il y a aussi les aspects environnementaux. Alors, vous parlez des citadins. Nous, on a voulu savoir quel degré de connaissance les citadins, les citoyens de la métropole avaient de cette notion d'agriculture urbaine, ce qu'ils en pensaient et s'ils s'y intéressaient. Pour ça, nous avons réalisé un micro-trottoir afin de recueillir leurs témoignages. Vous allez entendre maintenant leurs réponses et réactions aux questions que nous avons posées. Tout d'abord, nous leur avons demandé ce qu'évoquait l'expression agriculture urbaine pour eux.
Faire pousser, comment on appelle ça, les plantations collectives au sein de la ville, par exemple. Effectivement, ouais, ça se fait beaucoup à Paris, à Toulouse, je ne sais pas si c'est très très présent.
Pour moi, ça va évoquer peut-être des jardins.
De l'agriculture qui se fait en ville. Hein.
Selon vous, que peut produire l'agriculture urbaine?
Je dirais plutôt fruits et légumes, non?
Ouais, ça peut être aussi bien des plantes que des animaux, je suppose.
Je crois que c'est des légumes qu'ils font.
Pensez-vous que les produits issus de l'agriculture urbaine sont de bonne qualité?
Je dirais peut-être qu'avec la pollution de l'air, je sais pas si c'est vraiment top pour la santé avec les particules.
S'il y a évidemment des pesticides, etc., il n'y a pas de raison qu'ils soient de meilleure qualité qu'ailleurs. Et à l'inverse, Si c'est biologique, en dépit de l'atmosphère, il n'y a pas de raison qu'il soit de mauvaise qualité.
Ils ont dû faire certainement quelques petites études. Bon, il y a peut-être un peu plus de pollution atmosphérique, mais je suppose que ça ne doit pas non plus être catastrophique sur la qualité après des légumes.
La ville d'Albi a fait le pari de l'autosuffisance alimentaire grâce à l'agriculture urbaine. Pensez-vous cela possible ?
Alors Albi, je sais pas combien ils sont d'habitants, ça me paraît quand même un peu surprenant d'être autosuffisant.
Je sais pas si c'est possible, il faut l'espérer. Mais j'y crois pas plus que ça, en tout cas c'est bien d'avoir ce genre d'objectif.
À partir du moment où il y a les espaces verts qu'il faut, ou du moins des structures adaptées, et en quantité suffisante, oui, je vois pas de raison que ce soit possible.
Il y a beaucoup de réactions et de choses intéressantes, Mathis Semblay, dans ce micro-trottoir. Qu'est-ce qui vous a retenu dans ce que vous avez entendu ? Il y a des choses qui vous ont interpellé vraiment ?
Je crois que c'est assez juste hein, sur ce qui a été dit, effectivement, sur la nature des productions, des légumes et des fruits, sur l'engouement, le fait que ça se développe peut-être plus ailleurs que chez nous, mais chez nous quand même il y a un certain nombre de jardins partagés. Et puis peut-être un élément sur l'autonomie alimentaire d'Albi, où il faut rappeler que l'autonomie alimentaire de Toulouse est de 3 jours seulement.
C'est-à-dire que si demain, pour une raison ou pour une autre, le ravitaillement de la ville de Toulouse s'arrêtait, on n'aurait que 3 jours d'autonomie alimentaire, c'est vraiment ça ?
C'est ça, oui. Et donc ça pose cette question-là qui n'est pas si simple hein, en termes de réponse, mais comment peut-on bâtir une autonomie plus grande, hein, peut-être pas totale, mais plus grande, en utilisant les terres périurbaines ?
Ouais, je réagis à ça. C'est la question de l'autosuffisance, est-ce qu'elle est possible finalement ? Oui, elle est possible, mais à condition. À condition que.
Donc, à condition. Quelles sont les conditions à remplir ?
Me semble-t-il, c'est à condition d'identifier quels sont les territoires fertiles à préserver et d'engager des stratégies foncières qui permettent véritablement de pouvoir avoir des espaces sur lesquels on va cultiver. Sauf qu'on sait bien aussi que ces espaces-là, intra-urbains ou périurbains, sont consommés, sont réduits, sont encerclés, sont enclavés. Et je pense que l'autosuffisance, elle ne repose pas uniquement sur une forme d'agriculture urbaine, mais qu'elle peut reposer sur une pluralité de formes. Et qu'il faut la penser comme quelque chose de multiple. Donc user peut-être de fermes verticales, user peut-être de jardins collectifs, user peut-être aussi de fermes urbaines plus traditionnelles comme celles qu'on peut avoir à Toulouse au bord de Biot ou des zones maraîchères, notamment sur la zone des 15 sols à Blagnac, etc. Et toutes ces zones périphériques, bien entendu, hein, dont on parlait tout à l'heure. Et je pense que c'est arriver à réorganiser une complémentarité entre toutes ces formes-là pour que l'autosuffisance soit possible.
Dans les questions qu'on a posées aussi, et on n'a pas encore abordé ça, l'agriculture urbaine, qu'est-ce qu'elle peut produire ? Est-ce qu'elle peut vraiment produire tous les types de produits agricoles ? Est-ce qu'on peut produire tous les types de fruits et légumes ? Est-ce qu'on peut produire des céréales, des légumineuses et de la viande éventuellement ?
Alors la réponse est oui. Après, il faut voir à quelle distance on se situe de la ville pour ça et quels sont les terrains qui sont sollicités. En intra-urbain, on est surtout sur des légumes et des fruits, hein, comme ça a été dit tout à l'heure. Et après, le travail des terres agricoles autour, on peut produire tout.
Et dans l'intra-urbain, quand on dit intra-urbain, c'est vraiment centre-ville de Toulouse, par exemple, on peut produire des choses dans le centre-ville de Toulouse. Et alors, dans ce cas, ça serait où ? Ce sont des jardins ou est-ce que ça peut être aussi sur les toits ?
Alors, aujourd'hui, c'est principalement les jardins partagés. Et on dit qu'un jardin partagé qui est bien entretenu peut fournir aux personnes qui viennent travailler dans ce jardin environ 70% de leurs légumes. Voilà, c'est pour donner une idée pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin partagé.
Alors, les toits, est-ce qu'un jour, les toits d'immeubles, par exemple, c'est des choses qu'on pourra utiliser, qui sont déjà utilisées.
On peut parler même d'un programme de recherche qui est en cours, en fait, par exemple, avec la clinique Pasteur, qui a installé, depuis 2 ans, un potager sur son toit. Alors, après avoir fait des études de portance, parce que les bâtiments, au départ, n'étaient pas nécessairement prévus pour accueillir en fait, des
oui,
potagers
voilà,
sur le toit.
Évaluer les risques qu'il peut y avoir.
Et en collaboration donc, avec une joint start-up, d'ailleurs Macam Garden, qui est spécialisée sur l'accompagnement technique, hein, en fait, à la faisabilité de ces nouvelles manières de produire, en fait, ils ont installé un potager, donc 200 jardinières sur le toit de la clinique Pasteur, avec cette idée effectivement de produire, mais pas que, partant du principe que l'aliment était aussi un outil du soin, notamment de la cancérologie, et un outil aussi du rapprochement social. Christian en parlait tout à l'heure. Hein. Ça génère du lien social, ça génère un rapprochement à la campagne, à la terre, etc. Et donc, on a là, effectivement, une expérience qui fonctionne, avec un objectif, encore une fois, de production qui n'est pas extraordinaire, mais qui leur permet quand même de produire un certain nombre de choses, des fraises avec des légumes référents, hein, ils ont mis en place ces choses-là, mais des fraises et du haricot vert en quantité, en tout cas, c'est 200 kilos ouais, de haricot vert par an, c'est pas non plus énorme, 200 ou 250, mais en tout cas, ça diminue d'autant un achat extérieur. Donc oui, on est quand même bénéficiaire économiquement, c'est ce qu'a dit le directeur.
Alors, les conséquences maintenant de l'agriculture urbaine sur l'environnement et sur le réchauffement climatique. Bon, on sait qu'à Toulouse, on a fait des émissions là-dessus, les conséquences du réchauffement climatique, entre autres, ce sera l'étiage de la Garonne qui sera de moitié d'ici 2050, donc on va avoir peut-être des problèmes, peut-être pas de ravitaillement en eau, d'alimentation en eau des citoyens, mais en tout cas, pour l'agriculture, pour les jardins, il va y avoir des problèmes. Est-ce que l'agriculture urbaine répond à cette question, en tout cas, permet de moins consommer d'eau, par exemple?
Alors, sur cet enjeu environnemental, il faut rappeler effectivement l'enjeu du changement climatique, qui est quand même quelque chose qui est très important, et dire que l'alimentation au sens large sur Toulouse Métropole pèse pour un cinquième de la production de gaz à effet de serre. Alors bien sûr, pas ce qui est produit directement ici, mais des aliments qui sont produits très loin, rapatriés, et donc globalement l'alimentation est quand même un point très important sur lequel on peut travailler pour réduire ces gaz à effet de serre. Ça, c'est la partie atténuation sur le changement climatique. Et après, sur le volet adaptation, comme on l'a vu, bien, l'agriculture urbaine peut fournir directement des aliments aux citadins. Mais le citadin qui s'implique dans l'agriculture urbaine aussi, petit à petit, prend conscience de tous ces enjeux, notamment consommer moins d'eau, irriguer un petit peu, et après, dans sa consommation personnelle, va aussi changer de manière. Donc, en fait, à travers une action très concrète qui est l'agriculture urbaine, on peut sensibiliser et mettre en action fortement les citadins.
Oui, puis donc des circuits de ravitaillement pour les produits alimentaires plus courts, donc moins de transport, donc a priori aussi moins de gaz à effet de serre.
Tout à fait.
Une question que je me posais, qu'on avait abordée un peu dans le micro-trottoir, c'était quel est l'état des sols dans la métropole toulousaine, notamment dans le centre de Toulouse, parce que est-ce qu'ils ne sont pas pollués par tout un tas de choses, les industries presque depuis un siècle, la circulation, est-ce qu'on peut cultiver des fruits et légumes sur un sol qui lui-même serait déjà malheureusement, quelles que soient les méthodes qu'on va utiliser, un petit peu empoisonné, je vais dire le mot.
Alors c'est peut-être pas très très simple de répondre à cette question, on va dire que globalement on a quand même des terrains qui sont corrects, il y a des pollutions ponctuelles, c'est clair, on prend l'exemple de la cartoucherie qui est une zone qui a été dépolluée, donc effectivement il y a des anciennes activités qui ont pu arriver à des terrains pollués. Après, par rapport à ces activités, il est clair qu'avant de s'engager dans une agriculture urbaine, il est important de faire une analyse des sols pour voir si oui ou non c'est possible, envisageable. Et ensuite, il y a le volet effectivement de la circulation automobile. Et là, je pense que c'est un enjeu du futur. Et ce serait bien de réduire la circulation automobile en ville pour plusieurs raisons, notamment la qualité de l'air. Donc, c'est aussi à travers l'agriculture urbaine et ce besoin-là qu'on pourrait travailler sur ces enjeux.
Est-ce que les élus, nos élus métropolitains, les élus en général, sont attentifs à ce que vous pouvez proposer? Est-ce que vous avez des contacts réguliers avec eux? Comment se passe le dialogue aujourd'hui? Est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment quand même un vrai intérêt pour ce que propose l'agriculture urbaine?
On ne peut pas dire que Toulouse soit véritablement une métropole très en avance sur cette question-là, ouais, par rapport à des métropoles comme Nantes, comme Paris. Ceci dit, on est quand même sur un questionnement qui est en train de s'intensifier. Donc du coup, sur un indicateur, quand les gens commencent à se poser de questions, et des élus aussi, on est quand même sur des indicateurs qui tendent à montrer que c'est peut-être une préoccupation qui va se développer et sur lesquelles, effectivement, les pouvoirs publics vont progressivement arriver à se positionner. Il y a tout un tas quand même d'organismes. Alors, je pense au CODEV, par exemple, qui a pour mission d'accompagner la réflexion autour de cette thématique et qui a notamment fait un travail très, très intéressant autour des territoires fertiles dans l'agglomération toulousaine avec un repérage des terrains à préserver et qui propose, autour de la question du bassin versant, en fait, la construction d'un réseau de terrains qui permettrait le développement de l'agriculture urbaine. Donc voilà, il y a des choses qui se font, il y a des interrogations.
Je voulais rajouter, donc, il y a effectivement une personne, Camille Dumas, du réseau Agriville, qui travaille avec les élus sur la question de la qualité des sols, et aussi que sur Toulouse Métropole, il y a un objectif d'arriver à 10% d'autonomie sur les légumes. Le maraîchage, en sachant qu'il y a un tiers de terres encore disponibles sur l'agglomération.
Donc un vrai potentiel à utiliser. Merci beaucoup à tous les deux pour votre venue et cet échange passionnant. Christian Ortega et Olivier Bory, je le disais au début de cette émission, l'agriculture urbaine est quelque chose à prendre au sérieux. Vous aurez pu constater tout au long de cette discussion que beaucoup d'actions, d'initiatives et de projets existent dans ce domaine. Il a certainement des idées à creuser, à mettre en œuvre pour améliorer notre alimentation, mais aussi notre cadre de vie et préserver notre environnement. On sait que c'est un des enjeux cruciaux du siècle en cours. Pour vous renseigner et connaître tout ce que propose l'association Green My City, je vous invite à consulter leur site internet www.greenmycity.eu. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Jules Martin Savy. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.